Cette semaine, le service infonuagique AWS de Amazon a annoncé un partenariat avec Mistral AI, la start-up française au cœur de l'innovation en intelligence artificielle. Ensemble, ils mettent une pierre de plus pour faciliter la démocratisation de l'IA générative avec le lancement de Mistral Large sur Amazon Bedrock. Ce modèle avancé d'IA va permettre d'ouvrir de nouveaux horizons en matière de compréhension, de transformation et de génération de code multilingue. Pour en parler, on va aller rejoindre à Lille, en France, Sébastien Stormack. Il est évangéliste chez AWS, mais aussi, vous le connaissez peut-être comme l'animateur du podcast francophone d'AWS. Bonjour Sébastien.
Bonjour Bruno.
Hey Sébastien, donc grosse nouvelle, je le disais, c'est l'annonce de l'arrivée de Mistral, cette IA française au cœur des outils de Bedrock. Mais avant d'aller plus loin dans cette annonce-là, est-ce que c'est possible pour toi de nous dire Bedrock, qu'est-ce que c'est? Il y a des gens qui nous écoutent, je suis sûr qu'ils n'ont aucune idée ce que c'est.
Ouais, Bedrock, c'est un service qui permet aux développeurs d'accéder à des, désolé pour l'anglicisme, large language models, des modèles de fondation, des grands modèles, simplement avec un simple appel d'API. Parce que si des développeurs qui nous écoutent ont déjà essayé d'installer un de ces modèles sur leur laptop, il faut le télécharger, déjà c'est grand.
Ah ouais.
Puis il faut mettre des drivers pour le bon GPU, il faut avoir une machine avec un GPU, il faut installer des librairies Python, il faut démarrer le truc, il faut mettre peut-être une couche d'API d'HTTP devant pour recevoir des ordres qui viennent d'une autre application. Bref, c'est pas facile. Et avec Bedrock, c'est aussi simple que appeler une API. J'appelle une fonction, je passe ma question et je reçois la réponse. Ça, c'est la première partie de Bedrock.
Ouais.
Et puis, la deuxième partie, c'est si je veux entraîner les modèles pour les rendre personnalisés par rapport au jeu de données que moi j'ai. Là aussi, si on veut le faire à la main, soi-même sur ses serveurs, ça prend beaucoup de temps. Avec Bedrock, c'est aussi simple que dire, voilà, j'ai un ensemble de documents qui sont sur Amazon S3, le système de stockage de fichiers à tel endroit. Je veux prendre tel modèle de l'étagère, je veux le personnaliser. On clique sur un bouton, on attend plus ou moins longtemps, ça dépend de la quantité de données, et on a un nouveau modèle prêt à l'emploi. Donc, c'est vraiment accès à des large language models comme un service facile à consommer pour les développeurs.
Et déjà, avant l'annonce de cette semaine, Bedrock, t'as quand même fourni un outil, là. Bon, ça fait un moment que je regarde ça, là. Entre autres, moi, mon préféré, c'est l'outil d'Anthropic, là. Il y avait la famille des Claude qui est à l'intérieur, mais il y en avait d'autres. Il y avait celui qui avait été développé par Meta. Il y avait d'autres choses qui étaient là. Quand on regarde la fondamentale des outils qui sont offerts dans Bedrock, est-ce que tu dirais que c'est principalement un marché de développeurs pour des organisations où il y a des développeurs indépendants qui l'utilisent, de par tout l'outillage qui est disponible là-dedans?
Bedrock permet vraiment de démocratiser l'accès à ces outils. Là où c'est compliqué de le faire avant, avec Bedrock, c'est assez simple. J'aime bien résumer Bedrock avec trois lettres. C.
C'est-à-dire?
C'est le choix. Parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de fournisseurs qui mettent à disposition, facturé quand même, qui vendent leurs modèles à travers Bedrock. Tu as signalé Meta avec Llama, Cohere, Anthropic, maintenant Mistral. Donc ça, c'est le premier C, le choix. Vous avez le choix des modèles. Le deuxième, c'est le coût. On essaye de vous offrir le coût le plus faible possible. Et c'est un coût à la demande. Donc, c'est au nombre de tokens.
C'est vraiment l'utilisation. Hein, c'est
le nombre de mots. Si tu n'utilises pas, tu ne payes pas. Et puis après, tu as une petite facturation, 0,0 quelque chose, ça dépend des modèles, par milliers de tokens rentrant ou sortant. Et le troisième C, c'est la confidentialité. Les données qu'on utilise pour entraîner ces modèles, si on veut les personnaliser, si on n'est pas content avec le modèle tel qu'il est fourni par le vendeur, mais qu'on veut l'entraîner avec ces données à soi, nos données à nous, elles restent dans la sécurité de mon compte AWS, de mon réseau AWS, avec tous les outils de gestion et de gouvernance des données qui sont déjà disponibles sur AWS.
Alors, maintenant qu'on a fait un bon boulot à présenter ce qui est Bedrock, là, la grosse annonce cette semaine, j'ai l'impression de dire que c'est autant une grosse annonce pour les Français parce qu'ils ont un outil finalement qui est reconnu, mais c'est aussi une très bonne nouvelle pour les francophones, puis même les autres, hein, parce que bon, ça fonctionne pas qu'en français, là, mais pour les francophones de la planète, de voir que maintenant, Bedrock inclut les outils nécessaires pour utiliser Mistral, qui fait très fort dans la compréhension, dans la transformation, puis la génération de code. Et tout ça dans une langue française, sachant même que, puis ça, je veux faire un petit coup de chapeau à Claude III, qui le fait très bien en français. Moi, je trouve ça fascinant de travailler. Je travaille beaucoup avec lui. Mais donc, de voir Mistral arriver au cœur de Bedrock, c'est pas banal.
Alors, je vais rester sur mon nombre 3, mon nombre fétiche de cette discussion. Il y a trois bonnes nouvelles. La première, pour la France spécifiquement, c'est que Bedrock est maintenant disponible sur la région AWS Paris. Ça veut dire que les clients français peuvent avoir la certitude que leurs données d'entraînement de modèles personnalisés restera sur la région Paris, comme ils ont l'habitude pour toutes les autres applications. Ils ne doivent plus envoyer leurs données à l'extérieur
s'ils veulent utiliser Bedrock. C'est un contexte d'IA souverain, là.
En tout cas, l'infrastructure pour tourner Bedrock est à Paris. Les clients peuvent l'utiliser. C'est bon pour la latence aussi. Ouais. Ça prend moins de temps que de traverser l'Atlantique et de revenir. L'autre bonne nouvelle, c'est que Mistral, c'est aussi une société européenne et française. Et donc, en tant qu'Européen, on peut se dire, finalement, il n'y a pas que des acteurs nord-américains dans ce monde-là. Et puis, le troisième, c'est pour toute la francophonie, comme tu l'as dit, parce que Mistral était déjà là depuis quelques semaines sur Bedrock avec les modèles 7B et le modèle qui s'appelle Mistral. La nouveauté annoncée cette semaine, c'est Mistral Large, qui est un modèle extrêmement grand, extrêmement compétent. Et il se différencie des autres de deux manières. Une, c'est qu'il a été spécifiquement entraîné sur des langues autres que l'anglais, l'allemand notamment, le français notamment. Je n'ai pas toutes les langues en tête. Je crois qu'il y a l'italien aussi. Enfin, bon, voilà, il y a plusieurs langues. Alors que, comme tu disais, Claude 3 est déjà très bon dans des langues autres que l'anglais, mais il n'a pas été entraîné spécifiquement pour ça. Tandis que Mistral, lui, il a été entraîné spécifiquement pour ça. Donc, on peut s'attendre à des qualités de résumé, de traduction, de génération de texte encore meilleures. Et puis là où Mistral Large est très bon, c'est dans sa capacité d'appliquer du raisonnement. Et on lui donne un fichier JSON, par exemple, on lui demande de trouver des valeurs minimum, maximum ou des choses comme ça. Il est capable de faire ça. Là où les autres modèles avaient un peu plus de mal, où il fallait découper les tâches en une suite d'actions individuelles, lui, il est capable de le faire d'un seul coup. Et donc, je suis très impatient de voir ce que les développeurs vont faire avec des agents. Parce que les agents, tu sais, c'est cette technique qui consiste à utiliser comme un orchestrateur de flux pour découper une tâche en plusieurs tâches et demander à un large language model de générer la tâche suivante que lui-même va faire, etc. Ça permet de faire des choses extrêmement poussées. Et Mistral Large se prête particulièrement bien à ce jeu-là grâce à ses capacités de raisonnement relativement haut niveau.
Oui, puis quand on le compare aussi aux autres outils d'IA qui sont disponibles dans Bedrock, on le sent que c'est un natif européen. Et ça vient aussi avec son bagage, les trousses d'apprentissage qu'il a utilisées. Moi, je trouve ça fascinant. Il y a des questions très nord-américaines où il a de la difficulté, mais du moment qu'on cherche des trucs très nichés au niveau de l'Europe, c'est comme instantané.
Au niveau de la culture générale, au niveau exactement. Des connaissances, exactement.
Et ça manquait comme outil. Mais là, si je demandais, qu'est-ce que ça vient ajouter à l'offre de Bedrock?
Eh bien, un modèle de plus, c'est mon premier essai, c'est le choix. Un modèle n'est pas l'autre. Et en fonction de la tâche qu'on veut faire, du prix qu'on est prêt à payer, des temps de latence qu'on est prêt à accepter dans son application, pour certaines applications, pour certains développeurs, ils auront intérêt à travailler avec un modèle plus petit ou plus spécialisé là-dessus ou différent. Pour les tâches de raisonnement, de réflexion assez pointues dans des langages autres que l'anglais, Mistral Large permet permet aux développeurs maintenant d'accéder à ce type de fonctionnalité. Donc, ça enrichit la sélection de modèles possibles sur Bedrock.
Mais pour AWS, stratégiquement, pourquoi c'est important d'amener un joueur européen comme ça?
Surtout de donner le choix à nos clients. Si tu regardes ce qu'AWS fait depuis 18 ou 20 ans maintenant, on a commencé avec des virtual machines. On a plus de 700 types de virtual machines maintenant. On pourrait nous dire pourquoi 700 types? Parce que tous les développeurs ont des besoins différents. Et dans le monde des large language models et de l'IA générative, c'est exactement la même chose. Les développeurs ont des besoins différents. C'est important de leur donner le choix. À ma connaissance, c'est un des rares outils où avec une seule API, un seul modèle de facturation, etc., on a accès à toute cette palette d'outils, ce qui permet d'expérimenter aussi. Je suis en train de développer des applications, des prototypes ou des démos, et j'essaye ces différents modèles. Je peux très facilement, juste en switchant le modèle ID, dire j'essaye la question sur Claude, et puis j'essaye sur Mistral, et je vois ce qui donne le mieux pour mon use case spécifique, pour mon cas d'utilisation spécifique.
Alors, quelqu'un qui est intéressé d'aller essayer Bedrock, la façon la plus simple de s'y rendre, c'est comment?
Pour avoir un compte AWS, mais enfin, ça, c'est pas très compliqué. Une adresse email, un numéro de téléphone, une carte de crédit. Je suppose que vous avez déjà ça. Vous allez sur la console d'AWS. Vous sélectionnez le service Bedrock. En haut à droite, vous choisissez la région. Il est disponible dans plusieurs régions. US East, US West, donc Oregon, Virginie du Nord. Il est disponible en quelques régions, en Asie et en Europe, Francfort et Paris, donc depuis cette semaine. Vous avez une console graphique avec un playground, un bac à sable, on peut dire ça comme ça, qui permet d'expérimenter les différentes API. Donc, avant de devoir écrire du code, je peux quand même taper mon prompt, essayer un chat, essayer de la génération d'images, régler les différents paramètres de façon graphique dans la console, histoire de pas devoir passer par un cycle de je code, j'essaye, ça marche pas. Voilà. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, qu'on a le bon prompt qui fonctionne, après on peut écrire du code. Et mes collègues ont développé toute une librairie d'exemples de code en Python, en C# pour .NET, en JavaScript, pour pouvoir intégrer ainsi Bedrock dans les applications. Mais je le répète, c'est vraiment un produit pour les développeurs d'applications, pour intégrer des fonctionnalités liées à ces large language models dans leurs applications, qu'elles soient serveurs ou clientes.
Sébastien Sormac, évangéliste chez AWS, mais aussi animateur du podcast francophone d'AWS. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Et puis, je te dis à bientôt.
À bientôt, Bruno.